Pauline Pucciano, La Cité d'Albâtre, chapitre 17, Face à face. Haletant, Keller demeurait parfaitement immobile, tentant de faire taire les battements de son cœur. En lui se disputait un petit garçon de 10 ans, découvrant en vainqueur la vallée aux merveilles, et l'homme sans illusion, qui gardait la tête froide, les yeux et les oreilles aux aguets, dont le sentiment dominant était la peur, et peut-être la hâte que tout cela finisse. Il lui parut attendre un long moment, entre les arbres gracieux du jardin d'été, son capuchon baissé sur sa tête, l'exploit qu'il venait de réaliser, la rencontre qui allait avoir lieu, tout paraissait également onirique, comme un rêve sur le point imminent de tourner au cauchemar. Et pourtant, comme la haute ville surpassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Il avait le sentiment de se trouver dans quelque décor de théâtre, dans une irréalité un peu inquiétante. Cette beauté lui était infiniment étrangère, et il s'attendait sans cesse à en voir surgir des pièges incompréhensibles. Soudain, il entendit des pas, feutrés et souples comme ceux des hauts citoyens. Un homme s'avançait vers lui. Il entrevoyait son visage dans la pénombre et sut que c'était lui. Les traits avaient une vague familiarité avec les siens, mais tout le reste les différenciait. Le visage amolli de l'homme, son air avide de plaisir, la moue suffisante que les années avaient imprimée sur sa bouche, le maquillage grotesque qui lui couvrait les yeux. Son père était un vieil homme gras et coquet, parfumé à outrance, dont toute la noblesse résidait dans la tenue. Keller ressentit une première impression désastreuse, mais se força à la faire taire. L'invitation au plaisir de la chair était un prétexte, récita-t-il en langue noble. Je dois vous entretenir d'une affaire importante. L'homme s'immobilisa, et Keller s'empêcha de respirer. Il savait qu'il avait un accent lorsqu'il prononçait la langue noble, et que les prochaines secondes étaient déterminantes.
Si à ce moment-là il n'utilise pas le verbe, lui avait dit Kettel, s'il te laisse ne serait-ce que quelques secondes pour t'expliquer, ne laisse pas la chance s'échapper.
L'homme fit un pas en avant et arracha brutalement le capuchon de Keller. «
Il n'y a aucune affaire d'importance qui me lie à un être tel que vous, cracha-t-il. »
Keller se sentait nu et son front vierge était glacé. « Je suis votre fils, » dit-il d'un ton neutre, et le petit garçon en lui avait envie de pleurer, étreint par un fol espoir. L'homme le toisa pendant de longues secondes, puis éclata de rire. Quand il se fut calmé, son regard n'exprimait plus que du mépris.
« Et après ? » demanda-t-il.
« Après ? » répéta Keller. « C'est à vous de me le dire. »«
Cessez d'écorcher la langue noble, » dit l'homme en langue vulgaire. « Votre bouche de brute la salit, comme votre corps puant la viande et la sueur salit la toge que vous portez. »
Keller resta silencieux un moment. Le petit garçon qu'il n'avait jamais cessé d'être, qui avait idolâtré un père qu'il ne connaissait pas, était en train de mourir, suffoquant et sans défense devant la violence de l'humiliation.
« Que vous imaginiez-vous, » vociféra l'homme, « me soutirer des oboles ? Il me semble que j'en ai déjà donné à votre mère plus qu'elle n'en pouvait espérer. Vous n'espériez quand même pas. »
Sa voix mourut dans un rire sombre.
« Nous n'avons rien et n'aurons jamais rien en commun. Et si vous ne le faites pas de vous-même, je vais vous apprendre à rester à votre place. Vous savez combien j'ai de bâtards en ville basse ? Non ? Eh bien moi non plus, et je m'en contrefiche. »
Alors, d'un geste impatient, exactement comme on tue un insecte qui vous tourne autour, il haussa les épaules et fit luire sa pierre frontale. Keller ne songea même pas aux recommandations de Kittel. Tandis qu'il regardait la pierre frontale et sa jolie lumière orangée, il lui semblait que toutes ses pensées, tous ses sentiments, toute son identité étaient en train de se rétracter, de se contracter en un point unique et infiniment pesant, en une certitude qui éclaboussait de rouge son passé comme son avenir et contre laquelle rien, absolument rien n'avait plus prise. Il tuerait cet homme de ses propres mains, il le tuerait avec jouissance, ce meurtre était la direction de sa vie, depuis toujours ce meurtre était la seule chose capable de lui rendre la dignité qu'il venait de perdre brutalement. Il se rendit compte au bout d'un moment que son père était en train de le contraindre, d'essayer de le contraindre, pour être plus exact, car l'esprit de Keller, entièrement refermé sur sa haine, lui était totalement hermétique. Il ne saisissait pas même le sens des paroles qui lui parvenaient comme un chant artificiel, et quand la pierre frontale s'éteignit et que son père le regarda avec un mélange de surprise et de colère, il reprit la parole d'une voix rauque.
Un homme tel que toi ne souffrirait pas la honte d'avoir échoué à contraindre un bas citoyen, siffla-t-il. Aussi je peux être sûr que tu ne vas pas appeler à l'aide. Laisse-moi te dire une chose et une seule. Dussé-je incendier toute la cité d'Albâtre. Dussé-je en massacrer tous les habitants, je reviendrai. Et ce jour-là, je te mettrai à genoux. Je laverai mon honneur dans ton sang et j'arracherai de ton front cette pierre que je porterai comme un trophée. Barbare, murmura le vieil homme décontenancé. Je t'apprendrai le sens du mot barbarie, lâcha Keller. Puis, rabaissant le capuchon sur sa tête, il s'éloigna à grands pas. L'homme, frissonnant dans l'air tiède de la nuit, finit par rentrer chez lui, hanté par le sentiment qu'une fissure irrémédiable venait de lézarder l'édifice sur lequel tout était construit. Kettel attendait le retour de Keller dans l'une des plus terribles nuits blanches de son existence. Parfois il se mordait les doigts de l'avoir aidé à faire cette folie, parfois il imaginait toutes les avanies qui pouvaient lui arriver, parfois il se prenait à espérer que contre toute attente il s'en sortirait indemne. Indemne des brutalités des gardes pourpres, indemne des terribles discours de contrainte que les hauts citoyens réservaient à ceux qui ne savaient pas tenir leur place. Certains bas citoyens, notamment des coupe-bourses opérant non loin du canal et s'étant attaqués dans leur folie à quelques hauts citoyens, avaient été corrigés par le verbe. Kettel imaginait bien ce qu'on avait pu leur insuffler à l'esprit, une image si misérable d'eux-mêmes, une vision si désespérée de la vie, que ces hommes étaient devenus des mendiants hébétés, à la merci des chafouins, perdant pour certains l'usage même de la parole. Que se passerait-il si Keller était pris? Le livrerait-on aux frères sombres? Reviendrait-il seulement de cette aventure? Kettel fumait beaucoup et buvait sans cesse du thé, rongé tour à tour par le remords, le regret, l'angoisse, et puis il se remémorait la volonté de Keller et se disait que contre toute attente, il s'en sortirait peut-être, qu'il reviendrait brisé sans doute, mais réparable, et qu'au moins il serait délivré d'un espoir et d'un doute qui l'empêchaient de vivre. Kettel savait que nul haut citoyen n'accepterait de lui parler comme à un égal, que les liens du sang ne signifiaient rien pour eux, comparés aux liens de la caste, qu'il y avait là quelque chose de méchant et d'absurde, mais d'irréductible. Keller allait au mieux faire éclater son rêve en mille morceaux, et il risquait sa vie pour ça. Non, se disait Kettel, il risque sa vie pour être libre, pour couper un lien qui l'entrave. Il en était là de ses ruminations lorsque Keller revint. Kettel reconnut son pas dans la rue, un pas rapide et mécanique. Il n'était pas dans son état normal, c'était la première certitude. Kettel se précipita à la fenêtre. Il marchait droit devant lui, le visage fermé, et Kettel crut distinguer une brillance inhabituelle dans ses yeux qu'il attribua à des larmes. Mais le reste de son attitude était plus déterminé que jamais, et Kettel soupira de soulagement. « Tout ce qui blesse l'orgueil sans le tuer lui redonne de la force », songea-t-il, en se citant le vieux proverbe d'Albâtre. Keller n'était pas brisé. Il ouvrit la porte bien avant que Keller soit arrivé en haut, et lui ouvrit les bras spontanément, lâchant la bonde de toute l'inquiétude qui lui avait serré le cou pendant toutes ces heures. Keller le regarda avec dureté. Toute trace de larmes avait disparu de ses yeux, puis il eut un rictus indéchiffrable et étreignit le vieil homme presque brutalement. « Tu es vivant, » murmura Kettel. « Je savais que tu réussirais. » « Oui, je suis vivant, » dit Keller en se dégageant brusquement. « Vivant et bien réveillé. »« Assieds-toi, » dit Kettel. « Tu veux un peu de tabac ?»« Je n'ai pas envie de m'asseoir, je n'ai pas envie de fumer, je n'ai pas envie de dormir, je n'ai pas envie de parler, j'ai envie de le tuer. » Kettel fit une moue désolée. « Si tu veux, tu me raconteras plus tard, » proposa-t-il en faisant un effort surhumain sur lui-même. Keller le regarda, surpris, puis éclata de rire. « Tu serais capable d'attendre jusqu'à demain, toi ?»« Non, je serais cruel, mais jamais avec toi. Et je n'imaginais pas pire cruauté que de te faire mariner dans ta curiosité. » Kettel se détendit tout à fait. « Ah, Kettel, » reprit Keller, « qu'avais-je besoin d'un père lorsque je t'ai trouvé, toi ?» Kettel sourit, touché plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Puis Keller lui raconta, comme un enfant, les difficultés et les risques qu'il avait encourus. Kettel le félicita comme un père et vibra aux moments cruciaux de son récit comme s'il y était et qu'il en ignorait le dénouement. Puis Keller redevint sérieux pour raconter l'entrevue elle-même. « Tu lui as résisté !» murmurait Kettel. « C'est incroyable ! Je suis fière de toi !» Keller sourit tristement. « Qu'est-elle ? Je lui ai résisté parce qu'il n'y avait plus qu'une seule chose dans ma tête à cet instant. Il n'y avait plus que ma haine, que mon envie de le supprimer. Et je ne parle pas d'un accès de violence, non. J'étais très calme au contraire. J'aspirais à ce meurtre de tout mon être. Le parricide, dit Qu'est-elle en hochant la tête. On ne se débarrasse pas comme ça des vieux mythes. As-tu déjà tué ? Demanda Keller. Non, grand Dieu, non, s'écria Qu'est-elle. Je suis un vieux savant solitaire et parfaitement inoffensif. Je suis sérieux, dit Keller d'une voix très calme. J'ai le sentiment que tout s'éclaire, que les ombres qui encombraient mon chemin se sont enfin dissipées. Qu'est-elle le regarda, songeur. Il y avait une détermination nouvelle dans la voix de son ami, une chose contre laquelle il était vain de lutter. Tu veux vraiment le tuer ? Keller resta silencieux un moment, un étrange sourire flottant sur les lèvres. « Je lèverai une armée, dit-il très calmement. Je lèverai une armée et j'abattrai la haute ville. Son sort à lui ne m'intéresse plus. » Au dehors, les premières lueurs de l'aube se levaient sur la ville basse, empourprant ses toits crasseux d'un flamboiement fugitif et prémonitoire.